Leur but, c'est de génocider les personnes trans.
Comme toujours, je pars d'un tweet ou d'une séquence vidéo d'apparence anodine qui m'interpelle et je développe toute ma pensée autour. Il s'agit d'un échange récent entre les inénarrables Lilian Thuram et Edwy Plenel, et plus précisément, une courte séquence de Plenel qui en dit long sur lui et sur ses techniques de manipulation. Vous verrez que c'est fascinant tout ce qu'on peut comprendre à partir de si peu, sans même avoir besoin de regarder l'entièreté du débat.
Je vais vous faire une petite confidence, mon premier article c'est un dessin, quand j'étais en Martinique. J'ai gagné un concours, il fallait dessiner sa famille. J'ai 6 ans et demi pour un petit journal d'enfants. Il s'appelait Pipolin le journal. Je dessine ma famille. Mes copains sont martiniquais, je parle créole. Bah, toute ma famille était noire. Quand Angela Davis a vu ce dessin, elle a dit « Give me, I will explain the color line to my students. » Je suis blanc, mais je dessine ma famille noire, c'est dans la tête. Bon, c'est une parenthèse.
Plenel évoque un concours qu'il aurait gagné à l'âge de 6 ans et demi lorsqu'il était en Martinique. Déjà, je découvre qu'il a grandi en Martinique de ses 2 ans à ses 9-10 ans selon son Wikipédia, mais on y reviendra plus tard. Partons du principe que cette histoire est vraie, car que ce soit vrai ou un gros mytho, ça change rien à sa stratégie de fond. Un enfant blanc qui dessine sa famille noire, c'est effectivement pour le moins surprenant. Je suis blanc mais je dessine ma famille noire, c'est dans la tête ? Pas tout à fait. Un enfant de 6 ans n'est pas aveugle. Même sans grille de lecture politique, un enfant perçoit les contrastes, les similitudes et les différences physiques. S'il grandit en Martinique au sein d'une famille blanche, il voit bien que la couleur de peau de ses parents n'est pas celle de la majorité des gens qui l'entourent. Alors que traduit-il réellement si ce n'est pas cette pureté ou cette absence de perception de la race qu'il essaie de démontrer ? À l'âge de 6 ans, le besoin le plus fondamental d'un enfant est l'appartenance et la conformité à son groupe. En grandissant en Martinique entouré d'enfants et d'adultes majoritairement noirs, le jeune Edwy Plenel a pu s'identifier non pas à l'apparence physique de ses parents, mais à la norme de son environnement. Dessiner sa famille en noir à cet âge, ce n'est pas ne pas voir la couleur. C'est au contraire une tentative psychologique inconsciente de se normaliser, de gommer une différence qui le marginalisait ou le distinguait dans sa vie quotidienne à l'école. C'est le reflet d'un désir d'assimilation absolue. Il y a chez Edwy Plenel une dimension de construction politique de sa propre biographie. En utilisant ce dessin, il cherche à se doter d'un mythe fondateur, l'idée qu'il serait né ou aurait grandi structurellement imperméable au racisme ou à la distinction de race. Il utilise l'enfance comme preuve de pureté idéologique. En disant « la race est une construction sociale », il commet l'erreur de projeter cette abstraction théorique sur les yeux d'un enfant de 6 ans. Le problème, c'est qu'en voulant démontrer qu'il n'avait pas de préjugés, il nie la réalité de la perception sensorielle de l'enfant qu'il était. Un enfant de 6 ans voit les couleurs. En revanche, il ne leur attribue pas de valeur hiérarchique, à moins que les adultes ne lui aient enseigné. En affirmant que la couleur de peau, c'est dans la tête, Plenel confond le signal visuel, la mélanine et le système politique, le racisme. Le dessin traduit probablement le fait que pour lui, à cet âge, la couleur noire était la couleur par défaut de la société et de la normalité. C'est là qu'il faut s'intéresser à son père. Alain Plenel était haut fonctionnaire, vice-recteur de la Martinique dans les années 1950. J'apprends qu'il était connu pour son activité militante au sein de mouvements décoloniaux. Tiens, tiens. Il sera révoqué par le pouvoir gaulliste après qu'il ait pris parti pour les émeutiers martiniquais lors des événements de décembre 1959. Un peu de contexte, vite fait. En décembre 1959, Fort-de-France est le théâtre de violentes émeutes ayant duré 3 jours et ayant été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Ces événements sur fond de tensions raciales et sociales ont provoqué de nombreux blessés chez les forces de l'ordre et causé 3 morts côté population. Un vice-recteur qui prend parti pour des émeutiers, ça fait mauvais genre. Sa révocation semble donc parfaitement justifiée. Les biographes Pierre Péan et Philippe Cohen soulignent d'ailleurs que l'épisode martiniquais du père d'Edwy Plenel est la matrice originelle de toute son idéologie. La suite du parcours de sa famille, bannie de la République et exilée alors dans une Algérie tout juste indépendante, parachève son formatage idéologique. Edwy Plenel n'a donc pas grandi dans un environnement neutre. L'obsession de la race chez ce type de profil s'explique par 3 ressorts psychologiques précis. Premièrement, la culpabilité du colonisateur. Ils ont conscience intimement d'avoir bénéficié, eux ou leurs parents, du privilège blanc, au sens le plus colonial du terme. L'antiracisme obsessionnel devient une thérapie personnelle de rachat. Deuxièmement, le complexe du sauveur blanc. Pour expier la position de dominateur de leur groupe social d'origine, ils adoptent la posture du sauveur blanc. C'est un néopaternalisme qui ne dit pas son nom. il s'attribue le rôle de défenseurs attitrés des minorités, ce qui maintient, ironiquement, une forme de centralité de leur propre personne. Troisièmement, le glissement de l'universalisme à l'essentialisme. À force de vouloir traquer le racisme partout, ils finissent par réintroduire la grille de lecture raciale dans absolument toutes les interactions humaines. Ils deviennent incapables de voir un individu, une œuvre ou un débat sans y apposer un filtre chromatique ou ethnique.
Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi, alors que voilà, j'étais militante de gauche, etc. Et en fait, aujourd'hui, en fait, un des problèmes de la fête de l'humain, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait.
Françoise Vergès correspond parfaitement à ce profil. Sa généalogie plonge ses racines dans les grandes familles de propriétaires terriens et de colons de l'île de la Réunion. Une dynastie qui a possédé de nombreux esclaves et accumulé un capital historique et social immense grâce au système de plantations. Devenir la figure de proue d'un décolonialisme radical, voire d'une grille de lecture où la blancheur et l'Occident sont criminalisés de manière systémique, agit comme un puissant mécanisme d'auto-absolution. En se plaçant à l'avant-garde de la dénonciation, elle s'achète une forme de virginité politique. Elle valide son statut d'intellectuel progressiste en se montrant plus virulente que quiconque, comme pour faire oublier que son nom est l'incarnation de ce qu'elle combat. Mais revenons au petit Edoui Plenel, 6 ans. Il est facile de deviner qu'évoluant dans un milieu militant, son environnement direct était très certainement saturé de discours idéologiques portant sur la question coloniale, alors qu'en réalité, la famille Plenel vivait pourtant avec le statut social des dominants blancs. Je disais au début de cette vidéo qu'un enfant n'attribuait pas de hiérarchie aux couleurs. En fait, cela s'applique à un enfant neutre. Or, avec un père militant, le petit Edoui n'était pas neutre du tout. À 6 ans, un enfant est une éponge. Il capte les obsessions de ses parents, leurs valeurs et ce qui leur fait plaisir. Si le père valorise la cause des opprimés ou le peuple martiniquais, l'enfant comprend très vite où se situe la boussole morale de la maison. Ce dessin a pu être une tentative inconsciente du petit Edoui de faire plaisir à son père, de lui montrer qu'il avait bien compris la leçon, qu'il était du côté des gentils, le peuple martiniquais défendu par son père, et non du côté des méchants, les colonisateurs blancs. Rien ne peut expliquer qu'il ne les ait pas dessinés tels qu'il les voit, si ce n'est l'endoctrinement. Tout ça crée un conflit de loyauté dans sa tête. L'enfant sent le paradoxe. Il voit bien que sa famille est blanche et privilégiée, mais il entend son père critiquer le système. Pour résoudre ce conflit dans sa tête d'enfant, il élimine la contradiction en dessinant sa famille en noir. Vous voyez comment avec de simples informations, tout s'éclaire par magie sur la nature profonde du logiciel idéologique d'Edoui Plenel. En omettant ce contexte familial lourd lorsqu'il raconte l'anecdote à l'autre raciste, Edoui Plenel commet une entorse majeure à l'honnêteté intellectuelle. Il présente son dessin comme la preuve d'une innocence naturelle de l'enfance face à la race. Regardez, c'est la preuve que la race n'existe pas. À 6 ans, je dessinais ma famille en noir, alors qu'en réalité, ce dessin est la preuve d'une imprégnation idéologique précoce. Ce n'est pas de l'innocence, c'est le résultat d'un conditionnement familial, certes plein de bonnes intentions mais un conditionnement tout de même, combiné à un environnement majoritairement noir. En somme, Edoui Plenel utilise une posture de pureté, l'enfant qui ne voyait pas les races, pour masquer ce qui est en fait une construction culturelle et politique très précise, issue de sa propre éducation de petit blanc privilégié chez un haut fonctionnaire de gauche. L'anecdote avec Angela Davis, bien qu'elle paraisse sortie de nulle part, est tout aussi intéressante car elle révèle la véritable nature de sa démarche, la mise en scène de sa propre vertu. Angela Davis n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas seulement une icône des Black Panthers des années 70. Elle est devenue au fil des décennies une figure majeure de l'université américaine et des théories de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le cœur du mouvement woke. Elle vient régulièrement en France pour des conférences dans des universités ou des cercles de gauche radicale. Pour le directeur de Mediapart, être présent à une conférence d'Angela Davis à Paris n'est pas un hasard. Dans le microcosme de la gauche intellectuelle parisienne, assister à cet événement, c'est montrer son appartenance au camp du bien et valider son brevet de progressisme. Mais surtout, la première question que je me suis posée est « Pourquoi il se trimballe partout avec son dessin d'enfant ?» Ce geste traduit son narcissisme et la préméditation et répond à 3 objectifs. Le premier, attirer l'attention de la papesse du mouvement. En montrant le dessin, il dit virtuellement à Angela Davis « Regardez, je suis un allié blanc, mais mon esprit est pur depuis mes 6 ans, validez-moi » Le deuxième objectif est de faire de cette preuve matérielle une relique qui prouve sa thèse. Enfin, le troisième objectif, s'approprier le concept de la « color line », c'est-à-dire une énième théorie farfelue de cerveau malade que je ne développerai pas ici. En s'emparant du dessin, Angela Davis a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Plaquer une grille de lecture théorique américaine sur un gribouillage de gamins. Et Plenel est ravi car cela transforme son anecdote d'enfance en fait politique mondial, validé par l'icône suprême. Cette scène est presque une caricature. On y voit un homme blanc, issu de l'élite administrative coloniale, qui ressent le besoin d'aller voir une militante afro-américaine radicale pour lui brandir un dessin d'enfant comme un certificat d'innocence. Comme je suis très attaché à ces micro-détails qui n'ont l'air de rien pour la plupart des gens, sa façon de commencer et de clore son anecdote m'interpelle. Il commence par « je vais vous faire une confidence » et la termine par « c'est une parenthèse ». Une parenthèse ? Le mec se balade avec une relique de son enfant sur lui et la brandit face à l'icône woke ultime et il nous sort que c'est une parenthèse.
Qu'est-ce que tu me racontes là ?
Cette technique de manipulation est connue. Pour qu'une anecdote fonctionne, elle doit avoir l'air naturelle et spontanée. S'il disait la vérité, c'est-à-dire que tout ça n'est qu'une mise en scène dans le but de se faire valider par l'icône numéro 1 du wokisme, son anecdote tomberait à l'eau et perdrait tout son impact. En qualifiant cela de confidence et de parenthèse, il essaie de faire croire que ce souvenir lui est revenu presque par hasard, comme une coïncidence au détour de la conversation, alors que c'est probablement la millième fois qu'il partage cette anecdote. Tout ça, c'est du théâtre. Il feint la légèreté pour masquer la préméditation. Cette technique a un autre avantage. Quand on ouvre une parenthèse, on indique en réalité qu'on ne souhaite pas en débattre et donc, on verrouille le sujet en le présentant comme une vérité absolue. Ensuite, il referme la parenthèse pour empêcher l'analyse du procédé et vite passer à un autre sujet. De plus, l'enfance c'est pratique, c'est l'innocence. Qui peut attaquer une anecdote d'enfance ? Il y a également une immense condescendance dans ce simple mot, une parenthèse. Ce que j'entends ?
Ma vie est tellement formidable qu'une rencontre au sommet entre mon banal dessin d'enfant et cette sommité du wokisme n'est qu'un détail dans mon immense œuvre journalistique.
C'est une manière d'asseoir sa supériorité intellectuelle et morale. Il montre qu'il tutoie l'histoire avec un grand H, avec une décontraction feinte. De la même manière qu'Edoui Plenel utilise son dessin d'enfance pour prouver sa pureté originelle, Mediapart s'est construit sur une posture de magistrature morale absolue. Le site ne se contente pas d'informer. Il instruit des procès en sorcellerie idéologique. Le monde est divisé en deux catégories. D'un côté, les dominants coupables, souvent identifiés à l'Occident, la police, l'État ou à la bourgeoisie blanche. Et de l'autre, les dominés, innocents par nature, qu'ils appellent les racisés. Le rituel avec Angela Davis met en lumière ce besoin viscéral d'être validé par les minorités pour mieux s'en faire le porte-parole. Chez Mediapart, cela se traduit par une obsession de la grille de lecture raciale et décoloniale. Le journal applique systématiquement le filtre de l'origine ou de la religion à des faits divers ou des débats de société. C'est comme je l'évoquais, le paradoxe du sauveur. En se faisant le défenseur autoproclamé des minorités, notamment à travers une complaisance historique envers certaines franges de l'islam politique au nom de l'antiracisme, Plenel maintient la centralité de son propre pouvoir intellectuel. Pour Plenel, l'idéologie préexiste à la réalité. L'enfant doit être aveugle aux races pour valider la théorie, quitte à nier la perception sensorielle réelle du gamin de 6 ans. Sur le plan éditorial, Mediapart fonctionne de la même manière. La grille idéologique est rigide. Si un fait ne rentre pas dans la case racisme systémique ou violence d'État, il est minoré ou écarté. Le petit garçon blanc, fils de haut fonctionnaire colonial en Martinique, qui dessinait sa famille en noir pour s'intégrer, est devenu l'homme mûr qui orchestre des coups d'éclat médiatiques pour s'acheter un brevet de pureté. Son logiciel n'a jamais changé. C'est un mécanisme de rachat psychologique d'un privilège social, transformé en une redoutable machine de guerre médiatique et politique. En grattant le vernis de la vertu, on trouve souvent une profonde névrose de classe et une immense volonté de puissance morale. Avant de vous quitter, j'aimerais faire un parallèle avec le cas de Lilian Thuram, et vous verrez que même si leurs profils semblent différents, ils finissent par converger. Contrairement à Plenel, Thuram est noir et son enfance n'a pas été très rose. Cependant, en devenant un footballeur international, il a opéré une bascule totale en intégrant la caste des ultra-dominants par le capital. Le piège de son nouveau statut est le suivant. L'argent et la célébrité mondiale extraient un individu de la condition de la majorité des gens, mais ils peuvent créer un sentiment de déconnexion ou de culpabilité. Pour Thuram, maintenir un combat obsessionnel sur la race permet de conserver son brevet de légitimité populaire et de victime historique, faisant oublier qu'il vit désormais dans les plus hautes sphères du privilège économique. Le point de départ des deux hommes était bien différent. Plenel faisait partie des dominants sociaux, Thuram des dominés. Le paradoxe, Plenel vit le privilège colonial tout en prêchant l'anticolonialisme, Turam devient un ultra privilégié tout en continuant de se définir par la condition de dominer. Le mécanisme de rachat, Plenel cherche constamment à prouver sa pureté morale, Turam investit à fond la question raciale pour garder un pied dans la souffrance légitime. C'est dans le résultat que leurs profils se rejoignent. Dans les deux cas, on obtient un concentré de névroses raciales et racistes et de dissonances cognitives. Entre le vieux bourgeois paternaliste postcolonial gauche caviar qui s'achète de la vertu à peu de frais, et le multimillionnaire qui se prend pour un opprimé alors qu'il peut mettre sa famille à l'abri du besoin sur 10 générations, au final, Plenel et Turam sont dans le même camp, celui des nantis et des dominants.
Même à Paris, j'ai jamais vu ça.
À Montpellier, il y a les nouvelles box à 5 euros, aussi généreuses que celles à 10 euros.
J'ai décidé de faire les meilleures box du peuple.
Je t'offre tout le poulet que tu veux à la fin de la vidéo, donc mets l'adresse en favori parce que... On est à Chicken Place et c'est ici que tu trouveras les box les plus généreuses de France.
Attends, avec 5 euros, j'ai ça?
Bah ouais, mon gourmand.
Quand je vous dis qu'ils sont pas là pour rigoler, une box à 5, 10, 30 euros.
Le poulet, c'est la vie.
Le poulet est halal certifié AVS. Et si le poulet est si bon, c'est parce qu'ils font cuire leur poulet dans une friteuse à pression. Là, la question que tu te poses, c'est
du blanchiment d'argent, ça, non?
Voilà.